Merci, merci, merci. De toute façon, j'aurai besoin de vous dans peu de temps, alors vous pouvez même rester là. Hein. Pas de souci, hein. Même si je vous tourne le dos. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, que ce soit à travers nos prières, la louange, à travers notre intercession, à travers aussi notre supplication, à travers nos faibles mots, nos simples mots, Seigneur, toi, tu traduis toutes choses. Et tu traduis toujours pour la gloire du Père. Alors Seigneur, si nous sommes là aussi, c'est par obéissance. Parce que tout ce que nous faisons, Seigneur, nous le faisons par obéissance. Afin que seul le nom de Christ soit élevé au-dessus de tout nom. Et que seule ta présence, Saint-Esprit, compte au milieu de nous. Alors merci pour ton amour immense, Papa, et merci pour ce qui va encore se produire. Je sais, Seigneur, que l'onction est là et que la guérison a commencé. Mais je sais aussi, Seigneur, que tu vas l'attester, Seigneur, avec puissance, visiblement, audiblement, et qu'elle sera un témoignage puissant. Père, merci pour ces instants. Ils t'appartiennent. Ils t'appartiennent, Saint-Esprit. Ils sont à toi. Toute l'œuvre t'appartient. Toute ta puissance, Seigneur, est libérée et elle est manifestée par l'onction. Alors, merci, Seigneur, pour ces moments. Gloire te soit rendue, ô Éternel. Alors, on ne va pas parler du même paralytique. C'est presque le même, mais ce n'est pas le même. Le mien, il fait partie d'acte 4, acte 3. C'est presque la même chose. On ne s'est pas concerté avec Antoine. C'est peut-être parce que Dieu veut insister sur... une foi authentique, une foi plus grande. Alors c'est bizarre quand on dit une foi authentique, parce que ça voudrait dire qu'il y a une autre foi. Il était une foi. Ça c'était avant. Mais il y a une foi, une vraie foi authentique. Celle que l'on a exprimée par les chants. Et donc, vous savez, avant, il y a toujours quelque chose que l'on oublie, que Dieu, Jésus-Christ a donné un ordre à l'Église. Normalement, quand Dieu donne un ordre, on est censé l'accomplir. Logiquement, on est censé accomplir les ordres de Dieu. D'accord ? Là, je ne parle pas d'un conseil ni d'une éventualité. Bande de lâcheurs. Ah, allez-y, allez-y. Fuyez. Ok. Donc, je reviens à ce que je disais. Jésus, avant qu'il soit enlevé auprès du Père, a donné un ordre. On le trouve dans Marc 16. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et puis, il a dit, lorsque vous prêcherez la bonne nouvelle, quel que soit le lieu où vous prêcherez la bonne nouvelle, il n'a pas le dit dans une sorte d'atmosphère, d'accord ? Il n'a pas dit qu'il fallait... être prêt dans une sorte d'atmosphère, même si le chant parle d'atmosphère. Hein. Je ne veux pas faire une relation avec le chant. Je veux dire, parce que souvent on dit, peut-être que la situation n'est pas propice à demander l'intervention du Saint-Esprit. Or, ce n'est pas nous qui décidons. C'est ça la sorte de foi authentique. On ne décide rien. On est simplement des instruments entre les mains de Dieu et Dieu agit avec autorité et puissance par rapport à l'instrument que nous sommes. Donc, simplement, il dit un ordre. Lorsque vous prêchez la parole, non pas avec un micro sur une estrade, mais chaque fois que vous témoignerez de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit, chaque fois que vous ouvrirez la bouche pour proclamer mes paroles, alors voici les signes qui accompagneront ma parole, dit Jésus. Ma parole. Donc il est dit, vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Si quelqu'un est possédé, vous chasserez les démons et ils partiront. Si éventuellement, on vous aurait mal intentionnement, avec une intention mauvaise, on vous aurait donné quelque chose à boire ou à manger qui ne serait pas bon, vous ne risquez rien. Et puis la suite, elle est là. Chaque fois que quelqu'un viendra pour un besoin, nous sommes censés obéir à Dieu et répondre à la demande, au besoin des uns et des autres. Et quelque chose qui est important, c'est que quand Jésus se manifestait dans les places, dans les places publiques ou dans divers lieux, dans les maisons, dans les synagogues. De toute façon, aucun lieu ne lui résistait, même dans le désert ou quoi que ce soit. Chaque fois que le Seigneur intervenait, il intervenait à travers les besoins des uns et des autres, sans demander qui ils étaient, d'où ils venaient et s'ils en étaient dignes d'être guéris. Ça, c'est une première chose que Dieu nous apprend. Quelle que soit notre vie, Dieu n'a jamais arrêté une bénédiction par rapport au péché. Parce que sinon, il n'y aurait jamais eu de guérison pendant les 3 ans et demi qu'il était dans son ministère. Puisque les miracles ont été relatés à partir de son baptême jusqu'à sa mort. Sinon, il y aurait quelque chose que je n'aurais pas compris. Si Jésus s'arrêtait sur le péché, il n'y aurait eu aucune guérison. Donc ça prouve que quelque part, on se met des obstacles. Et jamais Jésus n'a dit à quelqu'un, c'est parce que tu manques de foi que tu n'as pas été guéri. Jamais. Par contre, il a dit, sur ta foi, il a vu la foi, il a manifesté la foi. À cause de certains, d'autres ont bénéficié de la foi et ont été guéris. Ce qui fait que, dans la généralité, quand le Saint-Esprit décide d'intervenir afin de glorifier Jésus, il le fait. Et il le fait à travers des gens qui obéissent à sa parole, c'est-à-dire son corps, le corps de Christ. Nous qui faisons partie du corps de Christ. Donc ça veut dire, ce que je suis en train de vous dire, vous êtes capables tous de pouvoir le manifester dans quelque lieu que ça soit. Alors souvent on dit, j'attends le culte pour amener mon voisin à l'église afin qu'on prie pour lui. C'est une grave erreur. Parce que l'atmosphère, elle est dans ton cœur. Voilà l'atmosphère de foi. Elle est dans ce que tu crois. Et si tu crois que Jésus est capable d'intervenir dans une situation de guérison, de délivrance et de libération, il le fera. Alors, quand les disciples ont entendu ça, plus exactement les apôtres, eh bien, ils ont tout de suite mis en pratique. Et il se trouve que quelques temps après que la Pentecôte fut réalisée, il se trouve que Pierre et Jean, peut-être qu'ils ne savaient pas quoi faire de leur journée, ils disent, et si on allait se balader, louer Dieu dans la synagogue? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les églises comme nous. Hein. Tiens. Ils allaient à la synagogue. Hein? Ils n'allaient pas dans les maisons. Là, il est bien marqué qu'ils allaient au temple. Ils allaient au temple. Et donc, en allant au temple, ils avaient toujours dans leur esprit renouvelé la pensée et l'ordre de Jésus. Et quand ils arrivent à ce moment-là, à 3h de l'après-midi, et qu'ils vont au temple, je pense que ce n'était pas la première fois que Pierre et Jean allaient au temple. Je ne pense pas que c'était la première fois. Et je suis même persuadé que celui qui était infirme devant la porte, qui s'appelle la belle, il devait dire, tiens, celui-là, on le connaît. Et souvent, on a souvent l'habitude de rentrer dans une forme de routine en disant, oui, on a l'habitude de voir un tel avec toujours son handicap. Ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'il a l'handicap ou la maladie. Et ça devient naturel. On se dit, eh bien, il est naturel que la personne soit malade. Ça fait 30 ans, donc on va accepter qu'il soit malade. Et Pierre et Jean auraient pu passer en regardant le mendiant, celui qui faisait l'aumône, il dit, eh ben, tiens, salut Albert, comment vas-tu? Toujours là? Toujours présent? Toujours au même endroit? Tu sais, les bonnes blagues un peu tordues. Sauf que ce n'étaient plus les mêmes. Pierre et Jean n'étaient plus les mêmes. Depuis la Pentecôte, ils avaient changé. Quelque chose avait changé. D'abord, ils avaient de l'amour pour autrui. Je ne dis pas qu'ils n'en avaient pas avant. Mais avant, ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Ils suivaient Jésus. Et tant que Jésus était vivant, ils guérissaient les malades parce que Christ était là. Après, ils devaient prendre leur propre responsabilité à cause du Saint-Esprit qui était en eux. Donc, ils avaient déjà de l'amour pour le prochain. Et l'amour pour le prochain était tellement fort en eux que quand ils sont arrivés devant le temple, ils ont sans doute reconnu Albert, si je vais l'appeler comme ça, et ils ont dit, Jean, on ne peut pas continuer la route, on va s'arrêter. Il est dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure. Et là, il y avait un homme boiteux de naissance. Donc, ça faisait longtemps qu'il était là, si bien qu'il ne pouvait même pas se déplacer. Les gens, c'était un homme boiteux de naissance, comportaient et complaçaient tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône. Et ceux qui entraient dans le temple, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Alors, nous, on a une perception de l'aumône, c'est quelqu'un qui mendie, qui a besoin de quelque chose. Et c'est souvent, la réponse est liée à une pièce d'argent. Ou quand on a affaire à quelqu'un qui est un alcoolique, on va pas lui donner l'argent de peur qu'il aille acheter à boire. On va lui acheter un casse-croûte, un sandwich, enfin. Mais c'est toujours lié à un besoin spécifique qui est pour la nourriture, quand les gens font l'aumône. Et là, cette personne, bien sûr, elle dépendait de la bienveillance de ceux qui allaient au temple et qui leur a donné une piécette. Et on prenait cette fâcheuse habitude de toujours voir Albert au même endroit. Et la pitié était tellement grande, parce que cette forme d'aumône, pour moi, c'est une forme de pitié. On dit, on va lui donner quand même une piécette, ça fait tellement longtemps qu'il est là. Il faudrait peut-être qu'on change de vêtements. Il est toujours avec le même pull et le même pantalon. Voilà un peu la pensée des religieux, des gens de l'époque, des juifs, parce qu'ils n'avaient pas la notion de la guérison. Et même s'ils savaient que Dieu pouvait guérir, parce que dans Jérusalem, il y avait une piscine qui, de temps en temps, un ange venait, il dit, mais l'autre, il est toujours à cette porte, il n'est pas au bon endroit, donc il n'a pas de bol. Il faudrait qu'on dise à ses parents qu'il l'amène vers la piscine. Non, Albert était tous les jours au même endroit, parce que la seule chose qui l'intéressait, c'était d'avoir une pièce, parce que personne d'autre ne lui avait proposé autre chose. Écoutez-moi bien. On est réticent à aller dans la foi, parce que la foi nous met en porte-à-faux. La foi révèle exactement qui on est. Ceux qui auront cru, et seulement ceux qui auront cru, pourront prier pour les gens et les guérir. Parce que c'est toujours lié à la foi, parce que c'est la foi qui libère l'onction. L'onction du Saint-Esprit qui vient avec puissance guérir le malade. Donc cet homme ne pouvait jamais rien attendre, même des chrétiens, autre chose qu'un morceau de pain ou une pièce. Et malheureusement, dans l'Église, c'est ça. Au lieu qu'on donne une pièce, on va donner une parole de compassion. Mais tu verras, un moment ou un jour, Dieu va te guérir. Ça, ce n'est pas de la foi. C'est une expression pour se sortir d'une situation très embarrassante. Très, très embarrassante. À rigueur, vaut mieux ne rien dire. Parce que sinon, cet aumône-là devient même de la pitié. Et qu'est-ce que j'ai marqué ? Un intérêt pour cet homme. Cette position pour cet homme n'est plus même quelque chose qui peut intervenir dans sa vie, mais il cherche son propre intérêt à travers les besoins des hommes, à travers lesquels les hommes peuvent répondre à son besoin. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse ce soir, qu'on change d'état d'esprit, qu'on se dise, les temps viennent où Dieu va faire la différence entre celui qui le sert ou celui qui ne le sert pas. Plus exactement, je dirais même que Dieu est en train de faire une séparation et une différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Parce que le mot chrétien n'a plus aucun sens. Dieu dit, maintenant je veux voir celui qui croit en moi. Et parce que celui qui croit en moi, dans la sincérité, dans l'authenticité, alors je vais agir avec puissance à travers l'instrument qu'il est. À travers cet instrument. Donc c'est pour cela qu'à un moment donné, quand Jean et Pierre arrivèrent, ils savaient toujours dans la tête ce que Jésus a dit, il faut maintenant que vous puissiez faire la même chose que vous avez fait pendant 3 ans et demi à mes côtés. Continuez à guérir les malades. Continuez à détruire les œuvres de l'ennemi. Continuez à être présent partout où je vous enverrai, non seulement avec la parole, mais avec des actes. Continuez à croire que je vous soutiens et que je serai avec vous et que je manifesterai ma parole par des signes et des prodiges et des miracles et des guérisons qui l'accompagnent. Sinon, Dieu serait menteur s'il avait laissé ça et si on n'était pas censé pouvoir l'accomplir. Or, la guérison est un fait établi parce qu'à la croix, il a pris nos meurtrissures, il a pris nos maladies, il a pris tout ce qui nous faisait souffrir. C'est quelque chose qui a été acté à la croix. Donc, si ça a été acté à la croix et donc dans les lieux célestes, cette chose doit être actée sur la terre. Si nous, on prend confiance en nous et que l'on croit que l'on est un instrument puissant entre les mains de Dieu. Donc, en arrivant vers Albert, qu'est-ce que fait Pierre? Eh bien, de la même façon que Paul regarda la foi qu'il y avait dans le corps, dans le cœur de l'autre paralytique, là, ce n'est pas pareil. Là, Dieu va dire, va mettre en évidence quelque chose qui est en nous. Quand Pierre et Jean ont regardé le paralytique, droit dans les yeux, regardez bien ce qui est dit dans la parole. Il est dit, verset 3, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, fixa les yeux sur lui. Là, c'est violent. Là, c'est violent. Parce que vous avez deux situations par rapport au paralytique. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Pourquoi ils ont cette attitude qu'ils n'avaient pas avant? Suis-je devenu infréquentable? Est-ce que j'ai changé? Est-ce que je sens mauvais? Il y a quelque chose qui ne colle pas? Pourquoi se sont-ils arrêtés et me regardent-ils avec un regard? Parce que fixer quelqu'un des yeux, ça met mal à l'aise la personne. Vous l'avez déjà vécu ça? Quand quelqu'un vous fixe, et qu'est-ce qu'il y a? Ma tronche ne te revient pas? Et ça finit en bagarre, hein, généralement. Hein. Il y avait quelque chose de nouveau qui est né, c'est la compassion. L'amour, la compassion, la miséricorde de voir cet homme qui est là depuis tant d'années, 40 ans nous dit la Bible, et que personne n'a jugé bon d'essayer de faire quelque chose par rapport à sa maladie. Par rapport à sa maladie. Et donc il lui dit, regarde-nous. Alors non seulement ça met mal à l'aise de fixer les regards sur quelqu'un, généralement, que fait la personne quand vous la regardez, quand vous la fixez? Comment? Elle baisse la tête ou elle détourne le regard. Et là, Pierre, il dit, non, regarde-nous. Alors, Albert, il s'attendait à quelque chose de merveilleux, il dit, si vraiment ils ont une insistance, c'est qu'ils ont vraiment pitié de moi, aujourd'hui c'est Noël pour moi, ça va être jour de fête, je vais avoir plus qu'une pièce. Mais, sans le vouloir, c'était jour de fête. Il ne savait pas que ce qu'il attendait dans son cœur allait être différent de ce que Dieu allait lui donner. À cause de l'obéissance de deux personnes, l'obéissance de Pierre et de Jean, ont fait que cet homme a eu le profit de cette obéissance. À cause de l'obéissance de Pierre et de Jean, qui ont dit, Dieu nous a dit, priez pour les malades, imposez-leur les mains et ils seront peut-être guéris. Merci de votre écoute. Merci de votre écoute. Merci de votre réaction. Il y en a peut-être qui seront guéris selon l'atmosphère. Alors des fois, on va peut-être mettre un peu plus chaud, un peu, c'est quoi? Un peu plus chaud, un peu plus froid? Non. Vous leur imposerez les mains et les malades seront guéris. Point. Il n'y a pas d'éventualité, parce que dans la foi, il n'y a pas d'éventualité. Et il y a quelque chose qui m'est venu quand je priais ce matin, Dieu me disait très clairement, s'il y a une certitude en toi, eh bien tu n'as pas besoin de confirmation. Ah, j'ai dit, tiens, c'est nouveau ça. Le Saint-Esprit me dit, si tu es à la certitude en toi, n'attends pas de confirmation, sinon tu me mets en porte-à-faux. La certitude, c'est quelque chose qui est acté. Et ceux qui manquent de foi demandent toujours des confirmations. Mais quelqu'un qui a la certitude de son salut ne demande pas à Christ une confirmation. Donc si moi j'ai la certitude que la parole de Dieu est la vérité, comme cela a été dit, et que le Seigneur a dit, vous prierez pour les malades et ils seront guéris parce que vous croyez en ma parole, alors c'est une certitude. Maintenant, ma certitude fait que je deviens un instrument entre les mains de Dieu. Et le Saint-Esprit agit comme il veut. Comme il le veut. Donc c'est pour cela que quand il dit « Regarde-nous », il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Oui. Et il n'a jamais été dit il s'attendait à recevoir une pièce ou quoi que ce soit. Quelque chose. Quand le Saint-Esprit est là, comme il a été chanté, on s'attend à quelque chose. Maintenant, Dieu va faire que ton attente, ce soir, ton attente, soit révélée comme étant une certitude aux yeux de Dieu afin qu'il intervienne. Parce que la certitude que vous avez que Dieu peut vous guérir amènera la guérison. Et la certitude que j'ai que la parole de Dieu et la vérité me permet, sans prétention ou sans orgueil, c'est une vérité, me permet de dire qu'au nom de Jésus, sois guéri. Maintenant, vous allez me dire, troisième cas, et s'il n'y a pas la guérison? Eh bien, je suis désolé, ça ne me regarde plus. Vous allez me mettre en porte-à-faux. Ah oui, parce que s'il n'y a pas de guérison, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas la réponse. Je suis désolé. Comment? Exactement. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas la réponse. Parce que moi, j'ai enlevé dans ma tête cette troisième option. Parce que sinon, j'arrête. Sinon, j'arrête. Si j'ai cette certitude que la parole de Dieu est vraie, j'ai la certitude que Dieu va intervenir. Alors, s'attendant à recevoir quelque chose, Pierre lui dit, parce qu'il savait charnellement ce qu'attendait cet homme, Albert, il savait qu'il avait besoin d'argent pour survivre. C'est pour ça qu'il faisait l'aumône. Il dit, vous connaissez, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Mais il y a eu un geste. Il y a eu un geste. Il aurait pu se lever, comme il s'est passé pour ton handicapé. Il a sauté d'un bond. Albert II, deuxième de Monaco. Il s'est levé tout seul. Lui, il a fait un bond. Mais dans ces cas-là, il y a eu un geste prophétique. Je considère un geste prophétique. Un geste prophétique, pour moi, c'est un geste inspiré de Dieu. D'accord? Voilà, on fait la différence. Hein, rien à voir avec eux. Il lui dit, donc, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et c'est là où moi, j'ai été aussi secoué. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Qu'est-ce que nous dit mon ami Maxime? Merci de suivre. Ah, psaume 118, 15 et 16. Tu peux mettre avec le 16 en même temps, parce qu'il n'est pas long alors, si tu peux. Donc, on lit ensemble. Des cris de joie et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Moi, je crois que nous sommes des justes. Parce que Dieu nous voit juste. Dans les tentes des justes s'élèvent des cris de joie et de salut. La main droite du Seigneur déploie sa force. La main droite du Seigneur est élevée. La main droite du Seigneur déploie sa force. Généralement, quand la parole de Dieu bis, quand elle double, c'est que c'est vraiment quelque chose d'acté, de puissant qui est en train de se faire. C'est pour ça que je dis, quand j'ai lu le passage, j'ai dit, Pierre, c'est pas qu'il voulait donner un coup de main au paralytique pour dire, allez, bouge-toi. Il a été poussé par Saint-Esprit à saisir parce que la main droite, nous sommes la main droite de Dieu. Si vous lisez Ésaïe 51 au verset 9, réveille-toi, revêt-toi de force. Bras de l'Éternel. Nous sommes le bras de l'Éternel qui agissons avec cette puissance parce que le Saint-Esprit en nous déploie son onction et manifeste sa puissance. Donc il y avait cet acte de Pierre. Ce n'était pas pour donner un coup de pied ou un coup d'aide à cet homme. C'était parce qu'il a été saisi par Saint-Esprit. De la même manière que lorsqu'on impose les mains aux malades, c'est une fonction que le Saint-Esprit nous demande de faire. On agit. Par la foi, on impose les mains aux malades. C'est la même manière que lorsqu'on met on fait l'onction d'huile. C'est une question de foi, une question d'action du Saint-Esprit. Donc, ça dépend de tous en même temps, parce que la foi est agissance dans et au milieu des justes. Et alors, il y a quelque chose, quand tu as parlé, ma sœur, de persévérance, eh bien, autant cet homme, pendant 40 ans, était persévérant, on l'a placé tous les jours au même endroit, autant Dieu dit, est-ce que vous êtes persévérant? Oui. Est-ce que, je sais qu'il y en a beaucoup pour lesquels on a prié maintes et maintes fois. On a prié maintes et maintes fois. Et puis à un moment donné, pourquoi à ce moment donné, Dieu dit, il est temps que j'intervienne. Il est temps, c'est le temps. C'est le timing de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui n'apparaît pas dans la parole de Dieu, c'est qu'en Dieu, il n'y a pas de calendrier. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas de jour. L'intervention de Dieu se fait quand il veut. Mais si spontanément, nous avons voulu faire cette soirée, venez, soyez guéris, c'est qu'il y avait une pensée de Dieu. Et donc, regardez maintenant, parce que le Saint-Esprit vous fixe, pas moi, hein, le Saint-Esprit vous fixe de son regard. Ne détournez pas le regard de Dieu. Ne regardez pas à droite ni à gauche. Quand le Saint-Esprit dit « Regarde-moi », c'est justement pour que tu n'ailles pas regarder à droite et à gauche qui est déjà en train de regarder, de te juger, de te condamner. Regarde ni à droite ni à gauche pour voir si la chair n'est pas là en train de te dire « Une fois de plus, tu vas rester sur les carreaux. » Regarde-moi, ne regarde pas ton âme. Ne regarde pas ta chair, n'écoute pas tes pensées. Pour une fois, Dieu dit, regarde-moi, garde les yeux fixés sur moi. Et là, ensemble, cœur à cœur, le Seigneur dit, là je vais te saisir par ma main droite triomphante, et là je vais te relever. Mais si je te relève par ma force, c'est parce que j'ai besoin de toi. Il y a la notion du besoin de Dieu. Dieu te dit, si je te saisis par ma main droite triomphante, c'est parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin pour qu'à ton tour, tu puisses manifester ma puissance à travers la guérison que déjà tu es en train de vivre en ce moment. Quelle que soit ta situation, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la maladie, même si tu es passé entre les mains d'un chirurgien ou même si tu es passé entre les mains d'un docteur ou de qui que ce soit, Dieu dit, je vais amener l'excellence de la guérison. L'excellence de la guérison. L'excellence à ceux qui croiront, voilà le signe qui accompagneront les paroles. C'est pour cela que ce soir, et j'ai fini, je voudrais faire cet appel à tous ceux qui ont le regard fixé sur le Saint-Esprit. Et quand on a le regard fixé sur Dieu, on ne voit pas Jésus sur la croix, mais on voit Jésus ressuscité, triomphant de tout ce qui a précipité l'homme dans le péché, entre autres la maladie, les infirmités ou toute autre chose. Parce que comme l'a dit Antoine, il n'y a pas que la maladie physique pour laquelle on prie, mais même aussi pour les maladies psychiques. Tout est lié, tout ce qui nous empêche de vivre dans la plénitude de Dieu. Tout est là. Faut-il que l'on puisse croire que nous sommes des justes dans lesquels Dieu veut se glorifier? Des cris de joie et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite du Seigneur déploie sa force. Quand la force est déployée, c'est contre un ennemi. Il faut qu'il y ait, pour qu'il y ait une victoire, il faut qu'il y ait un combat. Pour qu'il y ait un combat, il faut qu'il y ait un adversaire. L'adversaire, c'est le diable. Et Jésus est venu détruire les œuvres du diable dans 1 Jean 3. Et là, ce soir, c'est une continuité de ce que les apôtres ont vécu il y a 2000 ans, qui nous a été donné comme un ordre. Alors maintenant que ceux, par contre il va falloir m'enlever ça, les drapeaux, que ceux qui, par la foi, les regards fixés sur Christ, saisissent la guérison, alors par la foi, on saisira, on déploiera la main droite de Dieu pour voir la guérison. Même s'il n'y a qu'une seule personne, Dieu manifeste ta gloire. Dieu manifeste ta gloire. Un seul regard. Un seul regard fixé sur Christ afin que la guérison soit reconnue comme une certitude.